Chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une émission de l'écho de ma commune, soutenue par le conseil départemental d'Eure-et-Loire. Et je reçois aujourd'hui dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel le candidat aux élections législatives pour représenter le parti du président de la République, M. Macron. Bonjour Maxime David.
Bonjour à vous.
Je suis heureuse de vous recevoir. Les prochaines élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin. Vous êtes donc le candidat du président Macron dans la deuxième circonscription d'Eure-et-Loire.
Tout à fait.
Votre parti a changé de nom.
Oui.
La République en marche est devenue Renaissance. Est-ce que la République est bien arrivée ?
Ah, écoutez, on n'a jamais caché que depuis la création du mouvement En Marche à l'époque, c'est un mouvement qui est en dynamique et qui suit aussi les évolutions de ce que le président a souhaité, c'est-à-dire un dépassement politique. Donc plus on avance, plus on s'élargit et donc on met à jour aussi le nom du parti. Moi, je ne vous cache pas qu'à titre personnel, je me réjouis de ce nom Renaissance qui était déjà celui de notre liste aux européennes. Et moi, c'est un mot qui me parle beaucoup avec tout ce qu'il véhicule comme innovation,
que
humanisme.
Que signifie-t-il ce nouveau nom ?
Eh bien, il traduit plusieurs choses. Il traduit inconsciemment le socle de valeurs que nous représentons. Moi, j'aime appeler ça l'humanisme. Et puis, dans le contexte actuel, je trouve que c'est plutôt à point nommé, puisque ce nouveau quinquennat, moi, je le sens très profondément, ouvre une nouvelle page pour le pays, parce qu'on a traversé des crises et on a tenu bon. Et donc, je pense que ça réouvre plutôt de l'optimisme sur notre capacité à faire les grandes réformes nécessaires pour la transition écologique, pour réduire les inégalités sociales. Et donc,
la réforme des retraites.
Entre autres, absolument. On pourra en reparler d'ailleurs si vous le souhaitez.
Mais volontiers.
Et donc, Renaissance, ça dit ça des années qui viennent, c'est-à-dire s'autoriser à ouvrir une nouvelle page, osons le dire, de l'histoire française.
On prend les mêmes et on recommence, ou on ne change pas une équipe qui gagne?
Bah, écoutez, il y a des gens qui sont là depuis le début, qui sont toujours là. Il y a une vraie solidité à ce niveau-là. Et puis, il y a un élargissement. Et on le constate à chaque élection. Le président de la République arrive constamment à augmenter l'espace politique de ceux qui se retrouvent dans son projet. Moi, je m'en réjouis.
Vous voulez dire qu'il ratisse à la fois à droite, à gauche ?
C'est dû en même temps. C'est vraiment assumé depuis le début. Là, nous avons une nouvelle première ministre qui est issue de la gauche, après deux premiers ministres issus plutôt du centre-droit. Donc voilà, ça illustre assez bien ce rassemblement.
Vous parliez de personnes qui étaient là depuis le début. L'éco-républicain vous qualifie, vous, Maxime David, de militant historique. Je vous avais reçu alors que vous meniez la liste majorité présidentielle aux élections municipales de Dreux. Mmh. Vous avez changé depuis 2 ans ?
Non. Au contraire, je ne vous cache pas que je suis de plus en plus convaincu de la démarche du président de la République. Pour moi, elle est tout à fait adaptée à la période. Il a prouvé dans ce premier quinquennat ce dont on pouvait douter a priori, ne le connaissant pas, c'est-à-dire sa capacité à tenir le cap malgré les crises. Ça, je pense que c'est incontestable. Sa capacité aussi à se réinventer, à adapter sa vision au choc extérieur. Et Dieu sait que nous en avons plusieurs. Et donc, je suis plus confiant que jamais, de plus en plus aussi épaté de sa résistance. Et je sens que les Français aujourd'hui sont prêts à aller de l'avant avec lui, avec d'autres, mais pour apporter les évolutions, réformes nécessaires à ce pays.
Il a certes traversé des crises, c'est indéniable, mais peut-être est-ce aussi le fait de tous les présidents. Je pense à la crise financière très très importante qu'a traversée Nicolas Sarkozy, en protégeant finalement l'épargne des Français, ce qui était très important. Mais vous, est-ce que vos convictions ont évolué ? Est-ce que vous portez les mêmes projets ? Est-ce que vous avez la même volonté d'agir ?
Et écoutez, ce qui se passe tend plutôt à me conforter dans les priorités que j'ai décidé de défendre, en l'occurrence dans cette campagne. Moi, je suis très sensible à la question de l'égalité sur l'accès aux soins. Je pense que c'est la première des inégalités. L'inégalité sur l'orientation scolaire, parce que je pense que la vraie promesse républicaine, c'est la capacité pour chacun de se réaliser d'où qu'il vienne. Et là, il y a beaucoup de choses à faire pour rendre cette promesse plus concrète, redonner son sens à l'égalité des chances. Moi, j'y crois beaucoup.
D'ailleurs, Elisabeth Borne a commencé son discours, ou l'a terminé, je ne sais plus, d'accession comme première ministre, en disant « je dédie
à toutes les petites filles ».
Les petites filles, ce qui était quand même très sympathique.
Et c'est un beau symbole et je pense que le pays a besoin de ça. Il faut croire en l'avenir, il faut croire en nos capacités, mais il faut faire les efforts indispensables pour tendre la main à ceux qui sont un peu plus éloignés et que le hasard de la naissance a éloigné voilà, des capacités de réussite. Donc, la santé, l'éducation et puis la transition écologique. Je pense qu'on vit là cette semaine une période de forte chaleur. Ce n'est pas la première, sûrement pas la dernière. Il y a une grande sécheresse, notamment dans le département, je pense à nos agriculteurs. On voit bien que le temps de l'action résolue et rapide est arrivé. Donc moi, je me réjouis par exemple que la première ministre ait à sa feuille de route la planification écologique. Le fait que ce soit le premier ministre qui en soit chargé, je trouve que c'est un symbole très fort.
Elle a du travail, certes.
Bien sûr, elle connaît le sujet, mais ça veut dire aussi que d'une part, on met ça au sommet de la hiérarchie du gouvernement. C'est le premier ministre qui est responsable de cette planification et ça assure une vision transversale, interministérielle de ce sujet. Et donc, c'est la meilleure garantie que nous puissions avancer. Et je pense qu'on a besoin d'avancer rapidement, fortement, avec justice.
Donc, tous les ministères qui sont impliqués peu ou prou dans l'économie et dans l'écologie, vont être obligés de passer, si je peux dire, sous ces fourches codines.
Absolument.
Et de la suivre,
bien sûr,
quoi qu'elle décide.
La planification, on se donne les moyens, avec des objectifs et des durées qui sont extrêmement précises, de vraiment flécher les financements, flécher les investissements et de faire converger tous les efforts vers des objectifs communs. Et donc, moi, ce terme de planification, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est, là encore, à point nommé et que ça correspond à la période qui nous attend. Les prochaines années vont vraiment être décisives sur ce sujet. Et moi, en tant que candidat et j'espère demain député de cette circonscription, c'est vraiment une priorité que je mettrai au cœur de mon mandat.
Et est-ce qu'on peut quand même espérer ? Bon, bien sûr, il y a eu des réussites dans tout ce qu'on a fait pour l'écologie. Il y a eu aussi des échecs, certainement. Mmh. Est-ce que le poste qu'elle a va lui permettre de gommer les uns et...
Il ne s'agit pas de gommer les échecs, puisqu'ils sont faits. Il faut simplement en tirer les leçons. Je pense que...
On peut rattraper certaines choses.
Et personne n'est parfait. Ça, je pense qu'il faut vraiment le garder à l'esprit. Il n'y a pas de solution miracle. On a devant nous, je ne dirais pas une page blanche, mais nous devons avancer sans aucun point de référence. On demande quand même une transition de notre modèle économique, notre modèle de production, de manière absolument fondamentale, jamais vue.
Est-ce qu'il y a des lobbies ?
Il faut prendre des risques.
Des lobbies puissants qui puissent...
Mais les lobbies, vous savez, ils sont dans tous les sens. C'est-à-dire que par lobby, on entend, par exemple, des grandes entreprises. Certes, mais les grandes ONG sont aussi du lobby. Le lobby, c'est simplement faire avancer des intérêts. La société, elle est multiple et complexe, et donc il est assez logique que ces intérêts puissent s'exprimer. Mais le lobby ne fait pas les lois. Ce sont les politiques que les citoyens choisissent qui tranchent.
Et ils peuvent donc résister au lobby.
Bien sûr, ils le font.
Vous annoncez votre programme en deux mots, unifier et agir. Expliquez-moi ce que vous entendez par là. Unifier qui et pourquoi ? Agir comment et pourquoi faire ?
Écoutez, je ne suis pas aveugle à ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire les résultats de l'élection présidentielle notamment, mais si je remonte en arrière, les crises sociales que nous avons traversées, il y a dans ce pays aujourd'hui des divisions, mais qui sont pour moi le symptôme de doutes très profonds. Et donc, par unifier, j'entends avoir un mandat, et d'ailleurs j'essaye de le transcrire dès cette campagne, d'apaisement, de rassemblement, avec une approche d'humilité, ce que je vous disais, hein, personne n'est parfait, personne n'a toutes les réponses. Je pense qu'il faut... il faut apaiser aussi le débat. Il y a trop de violence verbale et physique aujourd'hui dans notre société et dans la vie politique.
C'est peut-être pas le plus facile, ça, par contre.
Oui, mais par contre, c'est la responsabilité de chacun. Et donc, la mienne, c'est, dans mon discours et dans mes actes, de faire des signes d'apaisement, des signes d'ouverture, des signes d'écoute, et d'essayer de construire des solutions. Je pense que les gens y sont prêts, parce que l'opposition stérile ou les solutions de facilité, ça n'a jamais fait un projet d'avenir pour la France.
Il y en a aussi,
hein. Quoi donc ?
Des solutions de facilité
et des
oppositions résolues.
Autour de moi, je vois soit la baguette magique, du côté de la France insoumise. Je vois la stigmatisation systématique en opposant les uns aux autres du côté du Rassemblement national. Et je vois du côté du député sortant une opposition complètement stérile, de plus en plus radicale. Il vote non à tout ce qu'a fait le gouvernement, y compris le quoi qu'il en coûte, y compris la stratégie vaccinale. Et donc, cette approche-là...
Il n'a pas voté des lois
Alors, il a voté certainement quelques lois, mais heureusement, il y en a quand même beaucoup dans un quinquennat. Mais sur des lois fondamentales, il s'est opposé systématiquement, avec parfois des arguments qui me semblent un petit peu légers ou qui relèvent vraiment d'une obstination personnelle que je ne comprends pas. Et donc, voilà, il faut avancer. Donc, l'apaisement, c'est la voie que j'essaye de porter dans cette campagne. C'est de tendre des passerelles. Je crois l'avoir prouvé lors de l'élection municipale, avoir la capacité à parler avec des personnes qui ne viennent pas de mon propre parcours politique. Voilà, d'écouter et de créer des majorités, en fait, des majorités de consensus.
Vous êtes depuis 2 ans donc conseiller municipal d'opposition auprès de Pierre-Frédéric Billet, maire de Dreux, LR. Comment analysez-vous votre action ?
Écoutez, en tant que conseiller d'opposition à Dreux, j'essaye, un, d'alarmer sur ce qu'il me semble néfaste ou allant dans la mauvaise direction pour l'avenir de notre ville.
Par exemple,
j'ai eu l'occasion de dire que le projet de développement qui est au nord de la ville, pour moi, est un mauvais exemple. C'est un modèle qui, pour moi, est dépassé et qui pose de vrais problèmes sur les questions écologiques, notamment.
Pourquoi dépassé ?
Écoutez, construire une patinoire aujourd'hui dans un territoire comme le nôtre, à l'heure du réchauffement climatique, et on le voit encore avec une vague de chaleur inédite pour un mois de mai, c'est un non-sens. 2, ça coûte une fortune que les Drouais vont payer par leurs impôts, puisque c'est une infrastructure publique, hein, c'est la mairie qui paye cette patinoire. Donc, à tous les sens, ça me semble être une mauvaise infrastructure. Le site en lui-même, c'est à mon avis une occasion ratée d'avoir pu positionner la ville sur des nouveaux modes de consommation. Moi, je l'avais dit pendant la campagne, j'en aurais plutôt fait un grand pôle d'économie circulaire, de recyclerie. Bon, c'est une autre option qui a été choisie, je le regrette. Donc voilà, il y a plusieurs sujets. J'essaie d'alarmer, j'essaie aussi de proposer des alternatives, une approche la plus constructive possible. Voilà, et d'essayer de convaincre les Drouais qu'il y a autre chose à faire et que nous avons une belle ville qui a un bel avenir devant soi à condition de faire les bons choix.
Votre suppléante est Marie-Françoise Skavenec, éducatrice spécialisée, conseillère municipale avec vous à Dreux. Donc, vous travaillez avec elle depuis pas mal de temps.
Absolument. C'est vraiment le choix de confiance. Vous savez, dans une élection législative, on élit un député et une personne qui, pour certaines raisons, s'il était amené... ne plus pouvoir occuper sa fonction, à le remplacer. Et donc la question, c'est qui pour remplacer le député ? Moi, je n'ai absolument pas voulu en faire un faire-valoir ou un symbole. C'est un choix de confiance. Je pense que c'est un choix responsable. En l'occurrence, nous partageons beaucoup de valeurs communes, beaucoup de visions sur l'avenir de notre territoire, sur son potentiel, et en même temps une complémentarité générationnelle, géographique. Marie-Françoise connaît très très bien l'ouest de notre circonscription, le Timray.
Et le monde paysan ?
Oui, elle est fille et petite fille d'agriculteurs, absolument. Donc, on enrichit mutuellement nos parcours et donc nos visions et notre capacité à comprendre les situations de nos concitoyens.
Vous me parliez de la santé tout à l'heure. L'hôpital est vraiment un problème crucial, à la fois pour la ville, pour la région, pour le pays.
Bien sûr.
J'ai entendu encore aujourd'hui sur diverses chaînes de télévision le problème que soulevait un médecin pour... toutes les personnes qui avaient été remerciées pendant le Covid parce qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner, il y en aurait 20% de personnel médical. Et le problème, c'est qu'il y a une pénurie absolument considérable de personnel médical. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour ça ? Est-ce que vous allez réintégrer les personnes qui ont été mises de côté à cause de la vaccination ? Qui, de toute façon, depuis, ont toutes étaient en contact avec des malades et donc...
Écoutez, c'était un choix, lorsqu'il a été fait, qui était un choix de responsabilité vis-à-vis de la campagne de vaccination et aussi de la sécurité à l'intérieur des établissements de soins. Aujourd'hui, on est dans une situation quand même différente. Hein. On est dans une autre période de la vague épidémique. Il a toujours été dit que ce n'était pas une punition. Donc, il y a des...
Enfin, ils l'ont pris comme ça.
Oui, ça... Mais je peux le comprendre, puisque personne n'est de mauvaise volonté dans cette histoire, c'est une question de responsabilité. Dans ce pays, on n'a pas rendu la vaccination obligatoire. J'aimerais quand même le rappeler.
Et pourquoi ?
Mais parce que c'est un choix de société. Il y a une liberté individuelle dans ce pays qui a été garantie, moi je m'en félicite. J'ai trouvé, si vous voulez, le point d'équilibre de cette stratégie vaccinale comme étant vraiment un exemple de la capacité à concilier des libertés individuelles fondamentales et une responsabilité. Une vague épidémique, quelque part, elle ne regarde pas qui vous êtes. Donc, il faut raisonner collectif. En l'occurrence, sur ces personnels, oui, il y a une situation de tension aujourd'hui. Il y a une fatigue du personnel. Moi, j'ai toute confiance sur le fait qu'ils pourront être réintégrés le plus tôt possible. En l'occurrence, il y a aussi une commission qui est chargée de déterminer le bon moment et la bonne manière de le faire. Donc, il faut simplement attendre aussi son avis.
Mais je d'après pense... ce que disait ce médecin-là tout à l'heure, c'est urgent. C'est urgent. Ils en sont à trier, évidemment, à l'entrée des urgences parce qu'il faudrait non pas éliminer ceux qui viennent avec des petits bobos. C'est oui. assez embêtant. D'abord, il y a un désert médical et ça, c'est effectivement un petit peu partout le même problème. Et comment trouver un médecin ? Il y a aussi un nombre important de gens qui n'ont pas, même pas de généraliste.
Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a eu une vague épidémique sans précédent. Enfin, c'est quand même inédit à un moment où notre système de santé était lui-même en difficulté. Depuis des années, et là, moi, j'entends certains aujourd'hui crier à la désertification médicale, mais ce sont eux qui, il y a quelques années, par notamment la fameuse révision générale des politiques publiques, voulaient supprimer un fonctionnaire sur deux. Personne n'a eu le courage de supprimer le numerus clausus. Depuis des années, c'est ce gouvernement qui l'a fait. Localement, il faut quand même aussi le dire, puisque moi, j'aime bien rendre à César ce qui lui appartient. Qui a annoncé 100 millions d'euros pour la reconstruction de l'hôpital de Dreux ? C'est le président de la République. Qui a inauguré une usine de production de vaccins, symbole aussi de la réindustrialisation de ce pays à Saint-Rémy, c'est le président de la République. Qui a décidé la création d'un CHU à Orléans pour enfin former le nombre de médecins suffisants dans la région, c'est le Premier ministre, c'est Jean Castex. Donc, moi, je veux bien qu'on essaie de tirer les lauriers, alors qu'on passe son temps à dire tout le mal qu'on pense du gouvernement.
Mais les laboratoires Abbott existaient déjà, néanmoins.
Oui, mais là, le fait qu'on puisse produire le vaccin Pfizer en France... En France, alors que je rappelle que les laboratoires français n'ont pas été, dans le temps imparti, en capacité de produire leur propre vaccin, ce n'était pas gagné.
Et ils le sont maintenant ou...
Alors, à ma connaissance, il y a des choses qui sont en cours, mais je crois qu'ils n'ont pas encore eu
leur
brevet. Donc, la santé, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. On paye des années d'erreurs stratégiques sur la formation des médecins. Il y a un enjeu d'installation des médecins. Et là, on a une inégalité des territoires. Il va falloir qu'on invente des solutions. C'est tout le but aussi de ce quinquennat, c'est d'aller encore plus loin sur ce qui a été fait, mais il y a quand même des progrès assez fondamentaux qui ont été pris durant ce quinquennat. Le CHU à Orléans, ça faisait pareil, des années qu'on en parlait, il a été acté.
Alors là, qu'il y avait Tours, point barre.
Et oui, on était la seule région qui n'avait qu'un seul CHU. On formait 300 médecins, alors qu'en moyenne, si on se compare à d'autres régions, on aurait dû en former quasiment le double, au moins 500.
Et bien là, CHU... Et vous pensez qu'on paye ça maintenant donc ?
Mais bien sûr, on paye deux choses. Un, on ne forme pas assez. Et on n'arrive pas à garder le peu de médecins qui restent, qui sont formés et qui veulent rester sur le territoire. Les trois quarts des étudiants de Tours faisaient leur internat hors de la région. Donc il faut, entre guillemets, agir sur tous les fronts. On a déjà fait un bon pas dans la bonne direction avec ce CHU. Nous avons une fac dentaire qui ouvrira à Tours en septembre. Là aussi, ça va dans la bonne direction. On va développer aussi la délégation de tâches pour qu'aujourd'hui, ce que seuls des médecins peuvent faire, demain, des infirmières pourront le faire aussi, ce qui libérera du temps de consultation pour les médecins. Vous voyez, il faut qu'on innove.
Donc, vous espérez ramener des praticiens sur votre territoire de la deuxième circonscription.
Bien sûr. Bien sûr. Les maisons de santé, c'est ce gouvernement qui a accéléré leur installation. Donc, il faut faire feu de tout bois. Et en tant que député demain, j'entends bien aussi en faire une priorité. Et valoriser à tout prix ce territoire, parce qu'à la fin, c'est ça la clé. Parce qu'on veut tous un médecin généraliste, un médecin de famille, quelqu'un qui reste sur le territoire. Et donc pour ça, il faut lui donner envie d'y installer sa famille et d'y faire sa vie.
L'énergie.
Oui.
Monsieur Macron a révisé sa copie. Je ne peux pas me permettre de dire ça, mais c'est quelque chose de ce genre. En fait, il était plutôt contre l'énergie nucléaire. Et là, nous avons vu qu'il avait vu les choses différemment. C'est-à-dire que... Il pense construire des EPR et également des mini-centrales. Mais le problème, c'est que ces mini-centrales ne vont pas se construire sur un claquement de doigts. Si vous parliez tout à l'heure de la baguette magique de M. Mélenchon, mais là, en l'occurrence, ça va être quand même quelques années de travaux et de recherches. Et est-ce qu'il ne serait pas plus simple de rouvrir Fessenheim, tout simplement ?
Alors.
Qui a été fermé par M. Hollande.
Oui, et alors, justement, pour revenir au début de votre question, le président de la République n'a jamais été contre le nucléaire. Au début de son mandat, il y avait le cadre de Fessenheim, qui avait été signé sous le quinquennat précédent. Donc, il se joue quelque chose...
C'est donc M. Hollande qui a demandé la fermeture
de
Fessenheim.
Oui, c'est un engagement. Et c'est la continuité de l'État. C'est-à-dire que lorsqu'une décision est prise, il y a une capacité à revenir dessus. Mais il faut aussi qu'on respecte la continuité de l'État. Donc il faut aussi une cohérence sur ce genre d'infrastructure. Il y a à la fois des gens derrière et des investissements et des entreprises qui attendent ce genre de décision. On ne peut pas faire l'essuie-glace constamment. Donc c'est en responsabilité qu'il a tenu l'engagement pris par son prédécesseur. Et ensuite, sur le nucléaire, la stratégie nationale, ça fait des années. Là encore, ça fait des années qu'aucun gouvernement n'a le courage de mettre le nucléaire sur la table. À chaque fois, c'est mis sous le tapis, parce que c'est un mot qui est frais.
Et pourtant, c'est volumineux pour aller sous un tapis.
Exactement, c'est pour vous dire. Donc, du coup, on a laissé le sujet pourrir, hein, très concrètement. Et là encore, saluons le courage du président de mettre ce sujet bien avant la campagne. Et donc, aujourd'hui, la stratégie est claire. C'était très attendu par les acteurs de la filière. D'avoir une feuille de route. Donc là, la feuille de route, on l'a. On aura demain un mix énergétique dont l'objectif principal, et ça, il faut quand même le rappeler, c'est de décarboner, c'est ça l'urgence. Et donc,
avec l'énergie nucléaire, il n'y a pas de problème.
Oui, alors, oui, mais vous l'avez dit, ça ne va pas se faire dans un claquement de doigts. Et il ne s'agit pas non plus de faire
d'où
du 100%.
Fessenheim.
Il ne s'agit pas non plus de faire du 100% nucléaire. Donc, pour avoir ce zéro...
Mais ça n'était déjà pas le cas, de toute façon.
Oui, absolument. Il y a toujours eu un mix. 70-80% jusqu'à maintenant de nucléaire.
Et ça va rester comme ça ou bien on va diminuer drastiquement?
Non, l'objectif, c'est zéro carbone d'ici 2030. Pour ce faire, on a le pilier du nucléaire, on a des infrastructures existantes qu'il faut développer et maintenir. Nous avons des projets de nouvelles ouvertures. Là, vous l'avez dit, ça prend un peu de temps. Je rappelle d'ailleurs, ça me permet de le dire... que tout le monde paraît critique le projet de l'EPR de Flamanville, mais c'est l'illustration parfaite que par ces atermoiements depuis des décennies, on a perdu la compétence. Donc il ne faut pas s'étonner des retards. Mais Flamanville va nous permettre demain d'aller plus vite puisqu'on aura réacquis cette compétence. Et made in France, si j'ose dire.
Donc, ce qui est très important aussi, j'imagine.
C'est indispensable. Donc nous aurons un pilier nucléaire qui permettra d'avoir une production d'électricité constante, sûre, pas chère et décarbonée. Et de l'autre, pour à la fois avoir un effet immédiat, puisque vous l'avez dit, construire une centrale, ça prend du temps. Donc immédiat, c'est les énergies renouvelables. Donc là, il s'agit d'augmenter considérablement la part du renouvelable dans le mix.
C'est-à-dire
L'idée, alors après les chiffres, il faudra voir, mais c'est une montée en puissance de l'éolien, du solaire et d'autres technologies, l'hydrogène demain aussi. Les inconvénients de cette technologie renouvelable, c'est qu'elles sont intermittentes aujourd'hui. Et donc, d'où l'idée
du
nucléaire.
Vous voulez dire, quelquefois, il n'y a pas de soleil et quelquefois, il n'y a pas de vent.
Il n'y a pas de vent. Donc, c'est pour ça que la stratégie de l'extrême-gauche, du 100% renouvelable, c'est une baguette magique, c'est faux. Puisque, à cause de l'intermittence, c'est mettre en danger nos concitoyens sur l'approvisionnement en électricité.
D'après vous, c'est une utopie.
C'est une utopie. Deuxième stratégie qui, elle aussi, va dans le mur, c'est le 100% nucléaire. Et donc, là encore, c'est l'équilibre. C'est les deux. C'est du en même temps.
Les panneaux solaires donc, sont beaucoup mieux acceptés par toute la population, oui. Même si ça recouvre des champs comme à Crucé, par exemple, où c'est quand même très important, que les éoliennes. Oui. Est-ce que vous en tiendrez compte de ça?
Vous savez, il y a un engagement qui a été pris, qui est sur la méthode. Aujourd'hui, pour implanter une éolienne, je pense qu'il faut... il ne faut pas non plus jeter le haro sur l'éolienne. J'entends certains dire qu'ils veulent les démanteler. Enfin,
le problème est que peut-être les gens n'en souhaitent pas un près de chez eux.
Et je le comprends. Est-ce que vous-même, vous en voudriez une au bout de votre jardin? Non. Bah, écoutez, peut-être que moi non plus.
À la radio, je n'ai pas d'opinion. Voilà. Mais...
Donc, l'enjeu, c'est aujourd'hui d'avoir la capacité à en implanter d'autres, parce qu'il faut qu'on augmente la part de l'éolien notamment, mais qu'on le fasse avec une méthode qui garantisse que ça ne se fasse pas contre les habitants, contre les élus. Je prends l'exemple du département d'Eure-et-Loir qui, en l'occurrence, est plutôt exemplaire. Il y a eu un vrai travail de concertation piloté par la préfète qui a été de mettre en place un schéma d'implantation des éoliennes. C'est-à-dire que maintenant, on sait grosso modo, ça fait le fruit de consultation, donc les parties prenantes sont d'accord, d'avoir des zones d'implantation. Ce qui permet aussi de protéger les communes qui aujourd'hui se retrouvent assaillies de propositions d'installation d'éoliennes et donc parfois peuvent être tentés de le faire sans trop prendre le temps de consulter.
Connais une commune en effet où habite une partie de ma famille et qui se voit harcelée.
Absolument.
Pour construire des éoliennes.
Et donc ce schéma permet de border les territoires dans lesquels on peut en implanter sans entrer dans ces nuisances. On a la chance en Eure-et-Loir d'avoir, par exemple, beaucoup de surfaces agricoles où il y a très peu d'habitations. Et donc, l'enjeu se pose beaucoup moins sur la pollution visuelle, la pollution sonore et d'autres nuisances que dans d'autres territoires où il y a une plus grande densité de population. Donc, essayons d'en mettre d'autres là où on peut, là où c'est accepté. Et sur les autres territoires, il faut trouver d'autres alternatives. Il y en a. Hein.
Je vais vous soumettre une idée.
Je vous écoute.
Border toutes les autoroutes de France avec des éoliennes.
Alors, oui, c'est une bonne idée. Après, il y a certainement vous savez, des périmètres de sécurité. On ne peut pas les implanter
oui,
trop proches.
Mais, bon.
Mais pourquoi pas? Après, oui.
Après tout, l'autoroute n'est pas quelque chose d'artistique ou... Alors, fichu pour fichu, allez, on borde tout ça d'éoliennes.
Pourquoi pas?
C'est peut-être une bonne idée. Soumettez-le en haut.
Je prends note.
En haut lieu. Bon, on a fait le tour de l'énergie. Il y a quand même encore un petit problème qui me préoccupe, mais peut-être vous avez aussi là-dessus certainement même une idée précise. Le gaz.
Sur le prix du gaz, il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler. C'est qu'aujourd'hui, certes, on a une inflation dans le pays, notamment sur les produits énergétiques, puisque par définition, on ne produit pas de gaz en France. Mais néanmoins, grâce au bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, cette inflation, elle est réduite considérablement. Aujourd'hui, on est à quasiment, je ne vais pas dire de chiffres approximatifs, mais autour de 5% d'électricité, de hausse du prix, ça serait beaucoup plus sans ce bouclier.
Et même 40
l'engagement, oui, l'engagement qui a été pris est de maintenir ce bouclier. Ça, ce sera la loi qui sera votée, la loi sur le pouvoir d'achat, dès juillet, dès que la nouvelle mandature sera ouverte. Et donc, moi, demain, en tant que député, je voterai cette loi qui permettra de prolonger ce bouclier énergétique tarifaire jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on est aussi dans une phase qui est très contextuelle. Donc, il faut se donner de la visibilité. Il y aura tout un tas d'autres mesures sur le pouvoir d'achat spécifiquement, parce qu'on est effectivement dans une période qui met beaucoup de nos concitoyens en grande difficulté. Et donc, il faut y apporter des réponses qui soient à la fois concrètes, qui apportent des réponses et des effets immédiats sur le pouvoir d'achat, et en même temps qui permettent demain de revenir sur des mesures beaucoup plus habituelles dès lors que le contexte aura changé. Et sur l'enjeu pour moi dans cette campagne, si je prends un œil plus local, on a un territoire qui, au premier tour, a mis Marine Le Pen en tête, cette circonscription, et Emmanuel Macron, au second tour, est arrivé en tête, par contre.
Pas partout, M. Mélenchon a également fait un très gros score.
À Dreux, mais dans la circonscription, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au premier tour, et ensuite Emmanuel Macron dans le deuxième tour. On a aujourd'hui une opposition, en tout cas des forces politiques, qui appréhendent ce nouveau quinquennat avec la même volonté, voire pire, d'obstruction. Et donc, je m'engage personnellement dans cette campagne pour m'assurer que notre territoire ne soit demain pas représenté par un député qui soit dans une opposition systématique, irrationnelle, ou qui représente des valeurs qui ne sont pas du tout les miennes et je ne pense pas celles de la majorité de nos concitoyens. Et donc, j'entends aussi faire de cette candidature à la fois un vecteur d'apaisement et de rassemblement et aussi un rempart. Contrairement à certains, moi, je ne mets pas un signe égal entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National. Au deuxième tour, évidemment, j'ai soutenu mon candidat, mais j'aurais su faire un choix très clair pour ne pas voter pour le Rassemblement National. Je note que pour d'autres, c'est beaucoup moins évident. Je trouve que c'est dommage et je pense que pour beaucoup d'électeurs, c'est aussi une ligne rouge.
Maxime David, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Je vous remercie d'être venu dans nos studios. Émilie Glory, directrice d'antenne, enregistre et réalise cette émission dans les studios du Rocast de Radio Grand Ciel. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, Maxime.
Merci à vous.